Merci de vous être rendu en nombre, ce qui au fond ne m'étonne pas, mais ce qui me fait plaisir, à ce rendez-vous de conversation croisée, et j'espère fructueuse, mais je n'en doute pas, autour du souvenir et de l'œuvre, et singulièrement de la dernière en date, on va y revenir, de Roberto Bolaño. Permettez-moi en introduction, avant de vous présenter nos invités, de vous faire une petite confession. Il y a dans la vie d'un critique littéraire des rencontres majeures et des regrets qui ne le sont pas moins et qui d'ailleurs corrélativement sont tout aussi majeurs. L'une des rencontres majeures de ma vie de critique littéraire, vraiment, c'est pas une flagornerie qui serait de plus mauvais effet, c'est ma lecture des Détectives sauvages de Roberto Bolaño. Et lecture tardive, enfin pas tardive, puisque je l'ai lu quand il est sorti en France, mais qui a constitué pour moi la découverte réelle de l'œuvre de Bolaño, qui était déjà largement publiée et diffusée en France. Donc je confesse le retard que j'avais alors, retard que je crois, j'espère, avoir rattrapé depuis lors. Et donc le regret, c'est que découvrant les Détectives sauvages quand les excellentes éditions Christian Bourgois, qui ont publié la quasi-intégralité des livres parus en français de Roberto Bolaño l'ont publié. Je n'ai jamais rencontré Roberto Bolaño. Et voilà, ça restera. Et depuis, je vais comme ça, en petit enquêteur, un peu fouineur, d'un ami l'autre, en disant tu l'as connu, alors comment il était. Et les questions que je pose, d'ailleurs, vous aurez l'occasion de vous en rendre compte, sont celles que devait poser au Golf Drouot dans les années 60 ce qui aimait tant et tant les premières chansons de Sylvie Vartan. Donc je crains que ce débat ne soit pas de la haute tenue littéraire que cette librairie et nos invités seraient en droit d'attendre. D'avance, vous voudrez bien m'en excuser. Permettez-moi donc de présenter les dix invités de la gauche vers la droite, ou plutôt plus exactement pour vous, de la droite vers la gauche. À ma droite, Robert Amutio, traducteur de, là aussi, de la majorité, sans doute, des œuvres de Roberto Bolaño, traduites en français. Un autre de mes regrets, c'est de ne pas lire l'espagnol dans le texte. Je suis néanmoins convaincu qu'il n'est pas nécessaire de savoir lire dans le texte et il n'est même pas nécessaire de connaître une langue. Je connais un peu le castillan, mais pour juger de la qualité ou non d'une traduction. Il m'est arrivé de dire d'une traduction du néo-norvégien. Je me souviens qu'elle était admirable, ce qui m'a valu les horions de mes quelques amis qui me restaient. Eh bien, j'assume. Je pense qu'un lecteur régulier peut se rendre compte à la musique, à la fluidité de la langue, si oui ou non la traduction est à la hauteur. Donc je n'aurai pas l'outrecuidance de vous citer des exemples récents, pas nécessairement traduits de l'espagnol, de traductions qui ne me paraissent pas à la hauteur, mais la traduction de Robert Amutio, beau lapsus, j'étais sûr que j'allais le faire, donc ça y est, c'est fait. La traduction de Robert Amutio est absolument, toutes les traductions de Robert Amutio sont absolument admirables. Celle de Roberto Bolaño, celle d'autres auteurs aussi qu'il a été amené à traduire. Ensuite, nous avons Dardo Scalvino. Dardo Scalvino fait partie des usual suspects de tous ceux qui s'intéressent à la philosophie, à la philosophie politique. Vous êtes, je crois, enseignant à l'université de Versailles, c'est bien ça. Et vous avez croisé l'univers de Roberto Bolaño. Vous avez été amené à travailler pas mal dessus. On y reviendra. On reviendra aussi sur des considérations plus, à prendre au sens le plus large du terme, bien entendu, plus politiques autour des incidences de l'œuvre de Bolaño et de sa trace politique, entre autres. Et puis Ignacio Echeverria, que je suis très heureux de rencontrer aussi, puisque je crois qu'en littérature, c'est vraiment, il n'y a rien de pire que les spécialistes qui se sentent comme les légitimes propriétaires de l'œuvre quand, hélas, les auteurs ne sont plus là. Les exemples abondent, foisonnent. Là aussi, je n'aurai pas l'outrecuidance d'en citer certains, mais chacun pourra y ajouter les noms qu'il veut. À chaque fois que j'ai été amené à lire des présentations par Ignacio Echeverria en français, des livres qu'il a été amené à faire traduire depuis la mort de Roberto Bolaño, j'étais assez épaté par la clarté du discours et la façon peu communes qu'il a. Et pourtant, j'imagine que c'est tentant de ne pas tirer la couverture à lui. C'est très sincère, ça aussi. Donc, merci infiniment. Et puis, à sa droite, notre jeune ami qui aura la lourde tâche de traduire le Babil irrépressible dont je suis pris depuis le début de cette rencontre, de traduire à Ignacio Echeverria et de nous traduire surtout, beaucoup plus intéressant, les paroles d'Ignacio Echeverria. Soyez-en remerciés, madame. Voilà. On va commencer par le commencement, si vous voulez bien. L'actualité de Bolaño sort ces jours-ci, je pense que c'est déjà sorti, n'est-ce pas, un livre qui s'appelle « Entre parenthèses », qui est constitué, c'est Ignacio Echeverria qui va nous le présenter, qui est constitué d'un ensemble de textes, pour l'essentiel écrit dans deux journaux, un journal espagnol, un journal plutôt catalan et un journal chilien, dans deux journaux pendant 5 ans. Vous voyez, c'est quand même assez, c'est relativement épais, c'est-à-dire de 1998, qui est un moment clé dans la carrière de Bolaño, qui est le moment peut-être de son accomplissement avec la sortie en Espagne des Détectives Sauvages, à 2003, sa mort. Ce texte est paru initialement en Espagne. Je pense que c'est le même volume qui est paru en Espagne et qui est paru en France. Et je me lance tout de suite, parce que c'est vrai et ça me fascine assez, de l'ensemble des textes qui sont parus de manière posthume, que ce soit en Espagne ou aujourd'hui en France, grâce à Dominique Bourgois, de l'œuvre de Bolaño, c'est que, très sincèrement, on ne peut pas, décemment, pour peu qu'on les ait lus, parler d'une quelconque forme de fond de tiroir. Je suis assez fasciné par la façon dont certainement, à la fin de sa vie, Bolaño s'est plus que jamais transformé en homme-livre, comme s'il sentait que le temps qui lui était imparti, comme on dit, n'était pas nécessairement extensible à l'infini, et qu'il fallait écrire, écrire, et encore écrire. Voilà. Vous êtes d'accord avec cette façon d'aborder les choses ? Ignacio.
Bueno, muchas gracias. Pido disculpas por entorpecer esta conversación, pero no me atrevo a hablar francés.
Merci beaucoup et je suis désolée de devoir ralentir cette conversation car je n'ose pas parler en français.
Conforme con lo que acabo de oír y quería añadir que este libro, que fue el primero que se publicó tras la muerte de Roberto Bolaño.
Comme nous venons de l'entendre, effectivement, je tiens juste à ajouter que c'est le premier livre posthume qui a été publié après la mort de Roberto Bolaño.
Es un libro estratégicamente muy importante para el tipo de consideración que tiene Bolaño, sobre todo entre los lectores españoles y latinoamericanos.
C'est un livre stratégiquement extrêmement important, d'autant plus que cela a un rapport avec les considérations habituelles de Bolaño concernant les lecteurs latino-américains et espagnols.
Bolaño tenía un concepto, una concepción militante de la literatura y digamos, venía de una tradición, la de su juventud, que era una tradición de poeta de vanguardia, digamos, que actuaba, digamos, a favor de una estética contra las estéticas dominantes. Y este tipo de relación con la literatura, como una militancia llena de partidismo y de beligerancia, fue fundamental en su obra y en su concepción de cómo escribir.
Bolaño a un concept complètement militant de la littérature en général qui lui vient de la tradition de sa jeunesse, cette tradition d'avant-garde. Il a un concept de l'esthétique très fort qui est en relation avec son engagement militant.
Y este libro es lo que más cerca está de un mapa literario de Bolaño, del Bolaño tardío. Es decir, de las posiciones que él ocupó como escritor en el contexto de la literatura en castellano, española, latinoamericana y mundial. Y por lo tanto es un libro muy importante para calibrar la posición relativa de Bolaño como escritor.
C'est le livre qui est le plus proche, en fait, de ce qu'on pourrait appeler la carte littérature du Bolaño tardif, sur le tard, qui le positionne en tant qu'écrivain international, au niveau donc espagnol, européen et latino-américain. C'est un livre très important par rapport justement au, à la manière de calibrer sa position en tant qu'écrivain.
Y quiero destacar el hecho de que es un libro escrito con extraordinaria libertad, porque los artículos reunidos en este libro en su mayor parte son artículos publicados o en un periódico de provincias, en Gerona, cuando Bolaño apenas era conocido o era poco conocido, y luego publicados en un periódico, digamos, un periódico escandaloso, amarillista, de Chile, un periódico con muy poco pedigrí cultural, y que por lo tanto se trataba en los dos casos de dos tribunas muy poco, digamos, como muy poco académicas, muy poco intimidantes, que favorecieron un discurso por parte de Bolaño muy desinhibido y especialmente agresivo en algunos casos.
Je tiens également à mettre en avant qu'il s'agit d'un livre qui a été écrit avec une extraordinaire liberté. Les articles qui ont été publiés soit dans un journal provincial de Gironde, en Catalogne, lorsqu'il était peu connu, peu ou pas connu, ou encore dans un journal avec peu de pédigré culturel chilien. Il s'agit donc de deux tribunes très peu académiques qui ont favorisé donc, son discours militant.
Bien, finalement, ce qu'il y a de stupéfiant, et on s'attaque directement au cœur du problème dans ce livre, ce qu'il y a de stupéfiant dans ce livre, c'est que je trouve que, parlant des autres, parlant de ce qui, somme toute, le constitue, de sa seule fidélité, même géographique, qui serait une fidélité à sa bibliothèque, Bolaño ne parle jamais, n'a jamais autant parlé de lui. Et ne s'est jamais autant livré, voire confessé, de lui, de la façon dont il se situe par rapport à sa génération. Il y a une phrase là qui commence à tourner comme étant la phrase symbole de ce livre, dans laquelle il dit qu'il n'a au fond jamais écrit que pour sa génération, on va y revenir. Mais je trouve que ce livre est vraiment un autoportrait, et voire plus peut-être encore, une confession de l'auteur en lecteur. Sabelda ?
Sí. Yo creo que, no sé, en el texto de la cubierta de la edición española se decía que era lo más parecido a una autobiografía, digamos, de Bolaño, pero en el sentido indirecto de la crítica. Bolaño, digamos, disolvió si te he entendido bien, su forma de hablar sobre sí mismo lo disolvió en su narrativa y en la forma en que hablaba de los libros. Sí. Los libros eran su biografía.
Je ne sais pas ce qu'il est dit ici sur le quatrième de couverture, mais en tout cas, le quatrième de couverture espagnol a dit qu'il s'agissait de quelque chose qui ressemble à une autobiographie au sens indirect, c'est-à-dire qu'il a donc ainsi résolu la forme de parler de lui et de ses livres dans cet ouvrage.
Est-ce que vous, qui êtes habitué à fréquenter le texte de Bolaño, ça vous a surpris cet aspect peut-être plus direct et certainement plus autobiographique, Robert Amutio?
Alors, de fait, moi, dans ce livre, ce qui m'a frappé le plus, bon, c'est le côté autobiographique, oblique, hein, parce que oui. Il parle jamais de lui, de sa vie privée, hein, bien qu'il soit de temps en temps, il fasse des allusions, hein, en particulier à la ville dans laquelle il a habité toutes les dernières années, à Blanes. Il est vraiment très très souvent question de ça. Hein. Moi, ce qui m'a frappé, c'est, je l'ai un peu connu, je l'ai pas connu autant qu'Ignacio, mais je l'ai rencontré. Ce livre-là m'a rappelé sa conversation. Une conversation très brillante, pleine d'humour, pleine de sarcasme, pleine de méchanceté, hein, parce que c'était quelqu'un de relativement cruel. Et quelquefois, et moi ce que j'ai trouvé dans ce livre, et moi qui me surprend un peu, c'est quelquefois les éloges hyperboliques pour des écrivains qui, à mon avis, ne le méritent pas. Mais c'est ça aussi, Bolaño, il est aussi comme ça, il peut être injuste. Et il peut être injuste avec des écrivains qui sans doute mériteraient un peu plus d'indulgence, un peu plus de bienveillance, et quelquefois avec des écrivains que, bon, que je ne vais pas citer, que je trouve recouverts de lauriers, et qui, à mon avis, mériterait d'être pris avec beaucoup plus de circonspection. Moi, c'est cet aspect-là du livre qui m'a frappé d'abord. C'est quand on le rencontre, quand on parle avec lui, ce dont il est question, c'est de la littérature, de sa passion de la littérature. Et parler de la littérature, c'est parler de lui. Voilà.
Vous avez insisté sur quelque chose, c'est son côté sarcastique, voire méchant, mais drôle aussi. Il l'a toujours été, mais il l'est dans ces pages-là. C'est simple, il est presque aussi peste que François Mauriac, c'est pour vous dire, dans ses meilleures pages. Je ne sais pas si l'un ou l'autre, à mon avis, doivent bien s'entendre. Et là où ils sont. Il est vrai que l'univers littéraire qu'il nous propose à travers ces pages, on en a une appréhension qui est peut-être un peu déviée, parce que si certains auteurs sont très connus, d'autres le sont beaucoup moins, mis à part d'un public très très hispanophile, et pour le coup lisant dans le texte, puisque beaucoup ne sont pas ou plus traduits. Je songe notamment à quelqu'un qui revient comme une figure tutélaire tout au long des pages, sur lequel je ne suis pas amusé à compter les nombres d'occurrences dans son livre, qui est le poète chilien Nicanor Parra, qui me paraît, si je l'ai bien lu, qui paraît pour lui absolument essentiel, comme offrant aussi, et c'est là qu'on retrouve la méchanceté, comme offrant une porte de sortie à la dévotion obligée de tout lecteur chilien pour Pablo Neruda. Il n'y a pas que ça, mais il y a aussi ça, me semble-t-il. Hein. Dardo, peut-être.
Oui, justement, j'avais noté NP, Nicanor Parra, oui. Pour me rappeler. Parce que, oui, je crois que la lecture qu'il fait de Nicanor Parra dans ses livres... c'est la lecture qu'il voudrait qu'on fasse de lui.
Oui.
Il admirait surtout Nicanor Parra. Je crois que toutes ces dimensions du sarcasme, de l'ironie, de l'humour de Nicanor Parra est présent dans les textes de Bolaño. Et surtout, parce que bon, je dois officier un peu de celui qui s'occupe de la politique, et l'attitude de Nicanor Parra par rapport dans les liens entre la littérature et la politique, c'est qu'il dit, quand il dit bon, ni la gauche social-démocrate, disons chilienne, la gauche qui à vrai dire c'est une droite, ni la gauche néo-stalinienne, ni la droite, bien sûr, nazie, ont pu récupérer Nicanor Parra. Et c'est justement l'inversion, même dans les lettres, n'est-ce pas, Nicanor Parra, Pablo Neruda, c'est l'inversion de Neruda. C'est Neruda, c'est celui qui, surtout, attention, le Neruda de le canto général, n'est-ce pas, c'est celui qui fait le contraire de ce que Bolaño attend de la littérature. C'est-à-dire, c'est celui qui... reproduit en quelque sorte d'une façon plus esthétique, plus poétique, un récit politique qui va être un récit fondateur de certains pensées latino-américanistes qui existent jusqu'à aujourd'hui. Et je crois que c'est le contre-exemple de ce que Bolaño voulait faire. Ouais. C'est-à-dire que il va mettre comme deux contraires l'attitude de Nicanor Parra, l'attitude de Pablo Neruda.
Ouais.
Et il y a aussi, il me semble, une sorte d'agiographie de Nicanor Parra dans ce texte. Il le dit même, il a raison comme un saint. Qui a été un peu déplacé vers la figure de Bolaño aussi. C'est-à-dire que c'est une sorte d'héros de la littérature, de passionnaire de la littérature. Bon, sa figure de sa mort... jeune, a beaucoup influencé cette image, il me semble. Mais surtout le fait de bon, celui qui ne se laisse pas, ne cède pas à séduire un public, à répéter, à gloser un des récits politiques circulant en Amérique latine.
Alors, on va revenir, bien sûr, sur cet univers littéraire si, si essentiel de Bologne. Effectivement, son vrai pays, c'est sa bibliothèque. Enfin, c'est... S'il y a une vache sacrée avec laquelle il n'est pas en désaccord, c'est Borges. Toutes les autres, oui, mais Borges, non. Mais quand même, on ne peut pas ignorer que dans ces pages, court comme un motif caché dans le tapis, en filigrane, en palimpseste, le motif du retour au Chili. Après 25 ans d'absence, et plus, parce que finalement, il était rentré très peu de temps au moment de la dictature, enfin, jusqu'au coup d'État de Pinochet. Coup d'État d'Allende. Donc, il a des pages qui sont à la fois d'une drôlerie, d'un refus permanent qui fonde le grand écrivain, de l'apitoiement ou de la mélasse compassionnelle, que je trouve absolument fascinante. Et en même temps, d'une justesse, et d'une justesse politique aussi, sur l'état moral du pays, que je trouve extrêmement intéressant. Qui veut réagir à ça? D'abord, peut-être rappeler les circonstances dans lesquelles il a été amené à revenir au Chili. C'était tout à fait à la fin de sa vie, ça devait être en 98, 19, quelque chose comme ça.
Sí. Sin duda, es una parte importante de este libro. Es una clave importantísima del Bolaño tardío, o sea, del Bolaño que nosotros conocemos y el que vivió su corto recorrido como novelista.
Sí, sí. Effectivement, il s'agit là d'une part importante, il s'agit même d'une clé importante pour comprendre le Bolaño le plus récent, celui qu'on connaît, celui des dernières années.
Me gusta mucho que haya salido con tanto énfasis el recuerdo de Nicanor Parra, porque ciertamente es un magisterio absoluto en el caso de Bolaño, y no solo es un magisterio de él como escritor y poeta, sino también en la actitud que se proyecta en estos textos concretamente.
Je suis heureux de cette emphase qui est apparue ici par rapport à Nicanor Parra. Il s'agit effectivement pour lui d'un magistère énorme dans son attitude et dans sa dévotion pour lui.
Je ne sais à quel point le public connaît Nicanor Parra. Poeta todavía vivo.
Prácticamente
que,
nada.
Prácticamente nada. No, bueno, no, pues a lo mejor tiene interés decirles no que es un poeta que tiene 94 años en la actualidad.
Alors, je ne sais pas à quel point le public connaît ou pas ce poète que es Nicanor Parra. Il s'agit donc d'un poète qui a actuellement 94 ans.
Y que lleva publicando desde los años 30, es decir, más de 70 años ininterrumpidamente.
Et qui publie depuis les années 30. Donc cela fait 70 ans qu'il publie.
Para Bolaño, el modelo de Parra como una especie de post-vanguardia era muy importante.
Pour Bolaño, le modèle de Nicanor Parra en tant que post-avant-garde est très important.
Y fue, era uno de los motivos, yo creo que uno de los muchos motivos que le devolvió a Chile muy tardíamente. Bolaño no quería regresar a Chile, regresa muy circunstancialmente en el año 98, una vez después de 25 años de ausencia y una segunda vez el año siguiente cuando le dan el premio Rómulo Gallegos, que entonces de paso viaja de nuevo a Chile, dos años consecutivos.
Il s'agit là d'un des motifs de son retour justement au Chili. Bolaño ne voulait pas y retourner. Il y est donc retourné pour des raisons précises en 1998, et donc 25 ans après être parti, puis en 1999 lorsque lui a été remis le prix Rómulo Gallegos.
Voilà. Y quería solo apuntar que yo en ese segundo viaje lo acompañé. Fuimos a visitar a Parra y consecuencia de ese viaje fue que yo me estoy ocupado actualmente en las obras completas de Nicanor Parra. Estamos terminando.
Et lors de ce deuxième voyage, je l'ai personnellement accompagné et nous avons rendu visite à Nicanor Parra, donc à ce poète. Et suite à ce voyage, je m'occupe actuellement des œuvres complètes de ce poète.
Yo quería solo destacar que a diferencia de Parra, sin embargo, Parra es un individualista radical. Toda su trayectoria es la de un individualista radical. Mientras que Bolaño, yo creo, y en esto es importante diferenciarlo, tenía un concepto de facción de la literatura. Buscaba, y este libro lo revela, buscaba tanto enemigos como aliados. Es decir, no era un individualista, era un partisano de la literatura.
Je tiens juste à préciser la différence fondamentale qu'il existe entre Bologna et Nicanor Parra et Bologna. Nicanor Parra est un individualiste radical. Toute sa trajectoire est celle d'un individualiste radical, contrairement à Bologna qui, dans sa littérature partisane, cherchait tout autant des ennemis que des alliés.
Yo creo que esto tiene que ver con que el concepto de Bolaño de la literatura es bastante más político que el de Parra, en el sentido que tú has apuntado. Y quería llamar la atención que el primer texto escrito por Bolaño para un periódico, escribió otros para México cuando era muy joven, pero digamos ya el Bolaño que todos conocemos, que vive en Blanes, que está en la provincia de Gerona, y entonces un periódico local le pide una columna literaria, y el primer texto que él escribe, creo que en el año 97, no, ahora no lo sé, lo tendría que mirar, está aquí recogido y se llama La mejor banda. La mejor banda. Y yo recomendaría mucho leerlo porque es casi leído retrospectivamente y en la perspectiva de conjunto de los textos del libro, es casi una poética de su propia literatura, cuando dice que si a él le pidieran asaltar el mejor banco o el banco mejor guardado de Europa o de Estados Unidos, él montaría una banda, pero con 5 poetas. Y hace una declaración muy romántica y muy expresiva de su concepto de la literatura, de lo que es una banda de escritores. Eso sí que es una actitud, digamos, muy poco parriana. Es una actitud política dentro de un concepto, si queremos, muy romántico de la política como complot y como hermandad.
¿Puedo traducir?
Sí, ya está.
Bolaño a un concept plus politique que Parra de la littérature, dans le sens où M. Scavino l'a dit auparavant. Le premier texte de Bolaño qu'on a commandé à Bolaño, il s'agissait pour un journal local lorsqu'il vivait à Blanes, donc dans la province de Girona. Il s'agissait d'une colonne littéraire qui a été écrite en 97, mais il faudrait vérifier, je n'ai pas la date sous les yeux. Il s'agit d'un article qui s'appelle La mejor banda, la meilleure bande, le meilleur groupe. Et rétrospectivement, il s'agirait là presque d'une poétique de sa littérature, car il parle de la meilleure banque qu'on pourrait attaquer, et il parle d'un groupe de 5 poètes qui pourraient le faire. Il s'agit d'une déclaration poétique, et c'est là que son attitude ne ressemble pas du tout à celle de Parra. C'est presque un concept romantique de la politique en tant que complot.
Alors, en même temps, je ne crois pas, il est devenu après sa mort d'une certaine manière, on va y revenir, mais je ne crois pas qu'on puisse considérer Bolaño comme un chef de bande. C'est-à-dire que le rapport essentiel, c'est le rapport amical. Il est dans un dialogue permanent. Robert, peut-être.
Oui, moi, j'en suis pas très sûr. Hein. Ah, moi, enfin, le peu de choses que j'ai vues de lui, rapport amical, c'est vrai, mais il se comportait vraiment comme un chef de bande. Moi, même politique sans doute, mais une bande de voyous, hein, très très nettement. Hein. Et si vous jetez un coup d'œil sur les détectives sauvages. Sur toute la première partie, vous voyez bien que le groupe réel viscéraliste, c'est sans doute des poètes, des futurs grands poètes, on ne sait pas, mais ce sont des voyous qui viennent perturber des événements tels que ceci, mettre un peu le bazar, et ils ne se comportent absolument pas, ils se comportent comme des gens, comme des barbares, hein, en fait. Alors, c'est vrai que à l'intérieur de la bande, le lien est amical. Hein. Ça, c'est vrai. Mais Bolaño, lui, comme individu, enfin, moi, tel que je l'ai perçu, c'est un chef de bande. Quand nous avons parlé un petit peu de littérature chilienne, c'était il faut mettre l'épée entre moi et eux. Et eux, ils ne pouvaient pas leur casser la figure, mais enfin, l'envie y était. Hein. C'était. Donc. Tu es de mon côté, tu es mon ami. Et si tu n'es pas de mon côté, tu es un ennemi. Et on va essayer de te nuire. C'est un personnage plutôt, plutôt comme ça. Ceci dit, c'est vrai, je pense que l'amitié, pour lui, est une des grandes vertus cardinales. Il compte vraiment sur ses amis. Il compte que ses amis vont lui passer tout.
Ignacio, vous voulez peut-être rajouter quelque chose?
Non, completamente de acuerdo. Tenía una voluntad expresa. Y en este sentido también querría llamar la atención sobre otro texto reunido aquí, que es la última, así como he hablado de la primera, de la mejor banda, la última intervención pública en todos los sentidos de Bolaño, fue su concurrencia, o sea, su asistencia a un congreso de jóvenes escritores latinoamericanos. El mismo año, fueron dos meses antes de su muerte, en Sevilla.
Je suis complètement d'accord, effectivement, il avait cette volonté expresse. Et je voulais justement citer un autre texte de cet ouvrage, qui est en fait la dernière intervention publique de Bolaño. C'est lorsqu'il avait assisté à un congrès de jeunes écrivains latino-américains, deux ans avant sa mort, à Séville.
Et ce congrès réunit basiquement des écrivains d'une franja générationnelle qui comptaient entre. Unos 10 años menos que Bolaño, ¿no? Era como, no solo era el escritor que asistió, el más importante, sino también el más veterano. Y él pensó escribir una conferencia que se llama Sevilla me mata. Finalmente, ocupado en otras cosas, eran los últimos meses de su vida, él no lo sabía, por supuesto, pero finalmente no le dio tiempo y empleó, o sea, dio con aquella ocasión una conferencia que ya tenía escrito, muy, muy agresiva también, Los mitos de Xululu, pero dio esa otra conferencia. Pero quedaron los apuntes de esa conferencia que él intentaba, que él había planeado dar, que la conferencia se titula Sevilla me mata, y que viene a ser como una especie de acto, bueno, una especie como de ajuste de cuentas con los que se suponen que son sus herederos. Es un texto muy interesante porque se ve muy bien la relación. En el fondo es, bueno, un poco en relación a lo que venimos diciendo, la relación de un jefe de banda que no está contento con la banda que deja, ¿no? Con la gente que deja atrás y la cuestiona.
Dans ce congrès, assistaient en fait des écrivains de 10 ans de moins que lui environ. Oui. Il était donc l'écrivain le plus important et donc le vétéran. Il avait pour ce congrès préparé une intervention qu'il avait intitulée « Séville me tue », mais finalement il était trop occupé. Bon, il s'agissait des derniers mois de sa vie, même s'il ne le savait pas. Et il a donc écrit finalement, il a donc lu finalement une intervention qu'il avait intitulée « Les mythes de Xululu », mais on a retrouvé les notes en fait, de cette conférence qu'il avait l'intention de donner. Il s'agissait d'une espèce de règlement de compte, et c'est là qu'on s'aperçoit de cet aspect important de sa personnalité, qui était ses relations de chef de bande pas très content avec des gens qui l'entouraient.
Alors, ça ouvre sur plein de perspectives, mais puisqu'on en est quand même à ce retour au pays natal et à la dimension qu'a pris l'œuvre de Bolaño, notamment auprès de ses pères et de ses jeunes pères, Bolaño finalement se considérait-il comme un écrivain chilien, comme un écrivain mexicain, comme un écrivain catalan, comme un écrivain latino-américain, comme un écrivain hispanophone? Comme un écrivain. Voilà. Si en deux mots, il fallait dire Roberto Bolaño, écrivain, qu'est-ce qu'on rajoute comme qualificatif et en rajoutons un. Était-il un écrivain chilien? Voilà, on va le faire simple. ¿Quién quiere?
Je peux essayer de répondre en partie. Ouais, hein. Ouais. Si on parle uniquement du fait de sa langue, ce n'est pas uniquement un écrivain chilien. Ouais. Hein, il y a évidemment des tournures chiliennes, mais ce n'est pour l'essentiel, quand on lit Les Détectives Sauvages ou quand on lit n'importe quelle autre œuvre, il introduit des éléments de littérature latino-américaine. Alors il s'amuse parce que je crois qu'il s'amuse beaucoup à faire ça. Il, dans Nocturne du Chili en particulier, il reprend des tournures chiliennes. Donc, c'est non seulement le thème est chilien, mais l'écriture même est chilienne et est destinée à un public chilien. Mais moi, je dirais pas que c'est un écrivain purement chilien. Je pense que c'est un peu difficile. Surtout dans la mesure si on considère que chilien signifie qu'il écrit uniquement pour un public, pour le public du Chili, ce qui me semble absolument faux. Hein. Le public de Bolaño, pour diverses raisons, va grosso modo du Mexique, du nord du Mexique, jusqu'au bas de l'Amérique latine. Il y a énormément d'autres langues dans Bolaño. Alors ça pose des problèmes de traduction, comme vous pouvez vous en douter, hein, puisque le français ne permet pas de telles variations à l'intérieur de la langue. Mais ça pose aussi des problèmes de définition, hein, de ce que c'est une littérature qui s'écrit en Amérique latine et qui peut être lue partout. Hein, on peut prendre... Peut-être pas deux pôles, mais au moins deux points très différents. Quelqu'un comme Bolaño qui écrit une littérature qui emploie, qui brasse, qui mixe des littératures mexicaines, argentines, chiliennes, en partie péruviennes. Et quelqu'un comme Volpi, par exemple, qui écrit une langue internationale, un espagnol standard international. Ce sont des choses très différentes. Hein.
Oui, et pourtant Volpi qu'on a reçu ici parle de Bolaño comme si c'était
Volpi fait partie des gens qui étaient invités à Séville. Ouais, hein.
Et alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que aujourd'hui Bolaño est à peu près unanimement considéré. D'ailleurs, je vous corrige un peu, vous avez dit une littérature qui s'écrit en Amérique latine. Non, elle s'écrivait précisément en Espagne, ce qui complique encore un peu plus les choses. Mais l'influence de Roberto Bolaño, n'est pas nécessaire de faire une enquête extrêmement précise sur les jeunes littératures latino-américaines et d'Amérique centrale également, est absolument majeure et essentielle. Et je crois que ça déborde même carrément le continent, le sous-continent, faire tache d'huile sur les littératures d'abord hispanophones dans leur ensemble. Et les littératures, aujourd'hui, Bolaño est considéré comme un des auteurs majeurs de la modernité littéraire. Quand je rencontre Kazuo Ishiguro, puisque j'ai eu cette chance, et que je lui demande quels sont les auteurs qui, pourtant il n'y a pas a priori, enfin on ne voit pas très bien le rapport, il me cite un nom, c'est Bolaño. Et c'est vrai de tout un tas de jeunes auteurs, quand on a reçu en France dernièrement beaucoup d'auteurs colombiens à l'occasion des Belles étrangères, tous, et notamment les deux plus jeunes et peut-être les plus emblématiques d'entre eux, Juan Gabriel Vázquez et Antonio Ungar, qui a traduit très bien Robert Amutio, citent Bolaño comme une influence essentielle. D'ailleurs, ils sont à peu près d'accord sur rien, les deux, et ils ne se retrouvent que là-dessus. Et la question que je me pose, c'est est-ce que finalement cette esthétique du dégagement, j'ai pas dit du détachement, mais du dégagement, n'offre pas une esthétique possible pour les jeunes écrivains latinos et hispanophones qui quand même vivent depuis tout à la fois le boom latino, les dictatures des pays d'Amérique centrale, dans une nécessité d'un engagement, de situer sa littérature dans un corpus idéologique et politique fort. Et est-ce que finalement ça ne leur offre pas une espèce d'extraterritorialité littéraire? Est-ce que c'est pas ça un peu le secret du succès en dehors de son génie de Roberto Bolaño pour ces écrivains latino-américains? Je sais pas ce que...
Oui, je pense qu'il y a des auteurs, dans un auteur tel que Bolaño, bon, c'est ce que je voulais dire avant par rapport à son lien avec la politique, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a, c'est pas le seul, n'est-ce pas, il y a le cas de César Aira aussi, c'est-à-dire que ce sont des écrivains qui ce sont des, par rapport à la génération du boom par exemple, oui, ce sont des placés de certaines attentes politiques du public latino-américain pour chercher des... pour aborder... Sans se détourner des questions sociales et politiques latino-américaines, mais pour ne pas répéter justement les clichés imposés par telle ou telle position politique. C'est-à-dire qu'il y a un geste de provocation individuel ou en bande, mais un geste de provocation à l'égard de la plupart des discours institués en Amérique latine, politiques institués en Amérique latine. N'est-ce pas? C'est une sorte d'anarchisme littéraire qui peut-être parfois peut-être indépendant des positions de l'auteur, des politiques de l'auteur, c'est-à-dire une séparation, c'est-à-dire les liens qui existaient entre la politique et la littérature jusqu'à la génération du boom, on peut même chez Borges par exemple, qui était un écrivain aussi problématique, et ça va changer à partir des années 80. Et ça, il me semble, par exemple, que quand on commence à penser, par exemple, le nazisme, pas comme un discours politique, mais presque comme une attitude pulsionnelle, c'est-à-dire que comme un serial killer, parce que c'est un point en commun de beaucoup d'écrivains qui vont penser le fascisme, par exemple, vont représenter le fascisme en Amérique latine à partir de la figure du serial killer. C'est-à-dire que ça va changer complètement la perspective sur un phénomène qui jusqu'à ce moment-là était pensé dans une dimension historique, dans le contexte d'un récit politique très établi.
Comment comprenez-vous cette phrase qui a été mise justement en exergue par l'éditeur de Bolaño sur la quatrième de couve d'entre parenthèses ? Tout ce que j'ai écrit, c'est au début du volume, dans un des premiers textes, je crois que c'est dans une conférence sur l'exil, me semble-t-il, mais je peux me tromper. Tout ce que j'ai écrit est une lettre d'amour ou d'adieu à ma propre génération. Comment percevez-vous cette phrase ?
Yo estirando lo que tú has dicho, el contexto de esta frase, la generación a la que alude Roberto Bolaño en esta frase, es la generación de los jóvenes latinoamericanos que sucumbieron, la última generación que sucumbió al ideal revolucionario. Es decir, la generación masacrada por las dictaduras que asolaron Latinoamérica durante los años 70.
Pour étendre ce qu'a dit M. Scavino, je tiens juste à préciser que cette phrase fait allusion aux générations des écrivains qui ont succombé aux idéaux révolutionnaires. Des jeunes qui ont succombé aux idéaux révolutionnaires d'Amérique latine.
Entonces, quisiera muy brevemente y de un modo un poco arriesgado decir tres cosas que creo que recogen lo que llevamos dicho. El paradigma y el horizonte que trabaja Bolaño como escritor es el de latinoamericano. No el de chileno ni mexicano, sino el latinoamericano. Y creo que una de las razones fundamentales de su éxito y de su canonización como escritor en lengua española, antes que como escritor internacional, es porque después de 30 años fue el primer escritor que supo proponer un nuevo paradigma de escritor latinoamericano muy diferente al que se había codificado con el boom.
Je vais dire trois choses. Je vais commencer par dire que le paradigme et l'horizon de Bolaño, il s'agit d'un paradigme, d'un horizon latino-américain. L'une des raisons fondamentales de son succès et de sa canonisation en tant qu'écrivain, après 30 ans, c'est qu'en fait, il correspond à un nouveau paradigme très différent de celui du boom latino-américain.
Este paradigma, este nuevo paradigma, desde luego cuenta, como tú has señalado, como señas clarísimas, primero la extraterritorialidad, es básico a nivel lingüístico, es decir, el movimiento, una extraterritorialidad que no tiene que ver tanto con el exilio político como con cierto nomadismo un cierto sentido de lo que Steiner, en el ensayo que llamó Extraterritorial, decía que el exilio es la condición del escritor contemporáneo. Esta sería un, digamos, la seña de lo, de la, de este nuevo paradigma, vamos. Pero, no sé, ahora se me parece que me he liado. ¿Sabes decirlo, no?
Sí. Concernant ce nouveau paradigme, il a des caractéristiques fondamentales, dont la première serait l'extraterritorialité, donc au niveau linguistique, et qui ne concerne pas, en fait, qui ne vient pas avec l'exil politique, mais qui concerne plutôt un nomadisme. Il s'agit donc de cet exil qui est comme condition de l'écrivain.
Esta condición extraterritorial, yo creo que produce una enorme fascinación y atracción en los jóvenes escritores. Uh-huh. Es decir, es una especie como de versión desarraigada del cosmopolitismo, del antiguo cosmopolitismo y del internacionalismo. Una alternativa, digamos, si queremos, más verosímil al internacionalismo del mercado. Pero también quería señalar el carácter político. El paradigma del escritor latinoamericano, el boom, se acuña con el ideal utópico de la Revolución Cubana. El éxito del boom es absolutamente solidario a ese momento de ebullición política e ideológica que supuso en los años 60 el triunfo de la Revolución Cubana y la posibilidad de una revolución en Latinoamérica. Fue un compañero de viaje fundamental en el éxito y en la onda expansiva del boom. Y los escritores del boom son escritores politizados, generalmente en la izquierda, y que militaron en partidos de izquierda más o menos radical y que creyeron en la revolución, por lo menos en su juventud.
Il s'agit donc de ce nouveau paradigme qui correspond à la fascination chez les jeunes écrivains comme une version déracinée vers cet internationalisme du marché. De plus, ce caractère politique correspond à ce succès du boom. Qui est dû en grande partie à cette ébullition qui a suivi donc dans les années 60 la révolution cubaine, qui a été comme un accompagnateur de tous ces écrivains du boom qui ont toujours été fortement politisés à gauche, donc, mais essentiellement dans leur jeunesse.
Et ici vient un peu la partie arriérée, me parece que con Robert l'a comentado alguna vez. El nuevo paradigma de escritor que ofrece Bolaño es un escritor que deja atrás, digamos, la revolución. Esa generación de la que habla es la generación que digamos, que perdió la revolución y que fue aplastada por las dictaduras. Por lo tanto, en el atractivo de Bolaño, en el que ejerce sobre todo los jóvenes, hay una especie como de arma de doble filo. Por un lado, existe la atracción de una especie como de resurrección de la utopía, tanto de la vanguardia como de la utopía política. Las dos están ligadas en el imaginario, sobre todo de los detectives salvajes. Es decir, hay una especie como de reactivación, bajo un signo muy romántico, intensamente romántico, una reactivación de la utopía político y vanguardista. O sea, la utopía política y literaria. Si.
C'est là qu'intervient la partie risquée de mon intervention. J'en avais déjà parlé avec M. Amutio. Ce nouveau paradigme laisse derrière lui cette génération du boom, car cette génération-là a perdu la révolution, s'est retrouvée aplatie par les dictatures. Et donc cette attraction pour Bolaño vient de cette espèce d'utopie avant-gardiste qu'on sent dans les détectives sauvages. Il s'agit là d'une réactivation donc de cette utopie politique et littéraire.
Le problème, pour moi, réside en la lecture de Bolaño comme fétiche pour les jeunes écrivains, está en que él deja la revolución atrás. Es decir, toda esta recuperación del ideal utópico se realiza desde el signo de la derrota. Uh-huh. Y desde ese punto de vista hay una lectura muy conservadora de Bolaño, en el sentido de que esa, digamos, tanto la utopía literaria como la utopía política que de algún modo emerge en su literatura está derrotada de antemano. Es decir, se revisita de un modo romántico, pero un modo, por así decirlo, museístico, ¿no? Es aquello que nosotros, que vivieron nuestros padres o nuestros abuelos, pero que nosotros desde luego no vamos a... Es decir, que hay como una especie que Bolaño actúa que con un doble filo. Por un lado, reactiva una especie de inconformismo ligado a la utopía, y por otro lado, digamos, encapsula esa utopía dentro de una especie de burbuja de derrota en la cual parece que el sistema ya no... Es decir, que es un acto como nostálgico, ¿no?
Le problème pour moi, c'est justement cette lecture de Bolaño en tant qu'écrivain fétiche, car lui, il laisse la révolution derrière lui et il intervient depuis l'échec. Donc, il s'agit là d'une lecture revisitée, romantique, à double tranchant, merci. D'un côté, la réactivation de l'inconformisme utopique, et de l'autre côté, lorsqu'il met en capsule, dans une bulle, en fait, l'échec de tout le système.
Mais est-ce que l'échec, je dis, à la défaite? La
derrota. Sí, he dicho el échec, sí. Tout ce qui est lié donc à la défaite suite...
Oui, je crois que je suis d'accord avec Ignace sur ce qu'il dit. Je crois que la fin de Amuleto montre assez bien la vision qu'il a de cette génération. C'est-à-dire que d'un côté, c'est vrai, il voit bien, il constate, il regrette même cette défaite. De l'autre côté, il y a une sorte de solidarité éthique entre l'attitude de l'écrivain, avant-gardiste de l'écrivain, et l'attitude de cette génération qui a voulu justement changer les choses. Et c'est de ce côté-là qu'il y a une sorte d'utopie avant-gardiste, parfois plus morale que politique chez Bolaño. Parce que, bon, quand même, il reste solidaire de cette tradition de gauche en Amérique latine. Mais aussi, une chose que je voulais ajouter par rapport, parce que peut-être il est difficile de comprendre ici en France où il y a une sorte d'autonomie de la littérature qui a eu lieu au XIXe siècle par rapport à la politique. Il faut savoir qu'en Amérique latine, en général, les nations latino-américaines sont nées à partir de certains mythes nationaux qui sont très forts, qui fonctionnent d'une manière très forte, et que la littérature s'inscrive, la littérature nationale, justement, le problème c'est ici. Bolaño est ou est pas un écrivain national. Toutes les littératures nationales s'inscrivent dans un débat à l'intérieur de ces mythes-là. Par exemple, il y a le cas du Mexique, que c'est le cas du mythe de la Malinche, c'est-à-dire ce qui va trahir les siens pour aider l'impérialisme, en quelque sorte. Alors, il y aura toute une littérature autour de cette figure. Et le malinchisme, c'est un topic de la littérature mexicaine jusqu'à la génération du boom, disons. Dans le cas de l'Argentine, que je connais un peu plus, il y a le problème de civilisation et barbarie, n'est-ce pas? Les grands débats sur les conflits entre civilisation et barbarie, c'est un des mythes nationaux qui va structurer toute la littérature jusqu'à Borges. Et Borges, il est encore là-dedans. Même si, d'un point de vue politique, il est encore là-dedans. Et même quelqu'un comme Piglia, par exemple, aujourd'hui, qui est un il est encore un écrivain de cette génération. Il est loin, de ce point de vue, il est très loin de Bolaño. Parce qu'il continue à penser sa littérature comme une sorte de relecture du mythe fondationnel du pays, de la nation. Tandis que Bolaño... C'est quelqu'un qui vraiment se met tout à fait en dehors de ces mythes nationaux, n'est-ce pas? De ce point de vue, il y a l'extraterritorialité linguistique, mais aussi narrative, narrative, on pourrait dire, par rapport au récit politique des pays latino-américains.
Alors c'est vrai, en même temps, il me semble qu'il... je ne voudrais pas faire bondir, mais il me semble qu'il y a quand même des liens de continuité entre le grand roman national qui fonde le roman latino Et c'est la volonté du roman Monde, du roman, j'ai pas dit du roman Fleuve, mais du roman Monde. Les Détectives Sauvages est un roman Monde qui fonde absolument un univers. Et finalement, par exemple, Les Détectives Sauvages, pardon pour la cuistrerie, est une espèce de suite formidablement avant-gardiste, effectivement, d'un livre comme La mort d'Artemio Cruz, par exemple. Il y a des choses, c'est pas exactement, bien sûr, ce n'est pas la même chose, c'est pas une suite. Une suite, je plaisante ou je me trompe. Mais il y a quand même une volonté prométhéenne, quoi, qui me paraît, je ne suis pas sûr qu'il serait très content de m'entendre, qui me paraît ne pas être absolument, absolument étrangère à quelques grandes figures du boom, par exemple, qui fondent comme ça une littérature nationale et même au-delà une littérature continentale. Non, ça vous paraît...
Je crois que bon, le cas justement de la mort d'Artemio Cruz, c'est un roman de Fuentes, pour ceux qui ne connaissent pas, et justement, le cas paradigmatique, parce que c'est un roman qui est tout structuré autour du mythe du malinchisme.
Oui.
C'est-à-dire que c'est le roman, presque l'exemple. Je crois que de ce point de vue, il me semble que Bolaño pense à l'extérieur de ce paradigme-là, oui, n'est-ce pas? Mais ce qui me semble intéressant chez Bolaño, c'est que il y a une sorte de geste borgésien, mais amené à l'extrême. C'est-à-dire qu'il pense tout, il pense à la politique, il pense même les relations entre les gens, tout à partir de la littérature. C'est-à-dire que quand on le voit dans Nocturno de Chile, par exemple, presque tous les épisodes de Nocturno de Chile, ce sont des épisodes de réunions littéraires, hein, où on est en train de débattre sur la littérature. Il y a pour moi le roman qui est le plus, que j'aime le plus, qui c'est la littérature nazie en Amérique, ce sont justement des avant-gardes littéraires ou des différentes positions littéraires qui vont représenter en quelque sorte les positions politiques de ce qui se passe en Amérique latine. C'est-à-dire qu'il fait passer tout par les filtres des débats littéraires de tout le monde de la littérature, les romans, la poésie, les salons littéraires. Et quand on voit un Nocturno de Chile, il y a le salon de cette dame qui existait, hein, que c'est quelqu'un qui... Et en bas, on torturait des gens. C'était un cas réel, hein, ouais. C'était l'époux d'une...
Il le rappelle d'ailleurs, entre parenthèses, il y a un texte.
Oui, voilà. Elle écrit, il s'inspire justement des mémoires qu'elle-même elle écrit en racontant cela. Bon, alors il fait une représentation de ce qui s'est passé au Chili, hein, comment la société chilienne vivait, tournait les dos à cette réalité épouvantable que c'était la torture et la disparition des personnes. Il représente tout ça à partir d'une réunion littéraire, un salon littéraire, comme pourrait être ceux du 19e siècle ici en France.
Pero si es, así es porque la literatura, en Bolaño, a ver, es que me ha sugerido esto, el efecto Bolaño, el efecto literario de Bolaño, estético también, es enormemente crepuscular. Yo creo que también en ese sentido es un gran novelista del crepúsculo de Occidente. En la literatura queda el último resplandor de la utopía. Es decir, esta especie de fascinación, esa especie de traducción a lo literario de todo, pasa porque en la literatura todavía cabe en la actitud literaria y en la pasión literaria, todavía cabe de algún modo emular... El viejo instinto romántico de la vieja búsqueda del absoluto, de hecho, ¿no? El mito del absoluto, de la otra vida, ¿no? El mito de Rimbaud y de la gran tradición romántica de la que se nutrió Bolaño.
Je viens d'y penser à l'instant, car la littérature, en fait, chez Bolaño, provoque un effet... il existe un effet Bolaño qui serait très crépusculaire. C'est le romancier du crépuscule. On trouve chez lui les dernières lueurs de l'utopie, car pour lui, la littérature tient dans cette espèce de vieil instinct romantique de recherche du mythe de l'absolu.
Pero yo creo que el valor de la literatura de Bolaño... Y el valor simbólico que tiene hoy en el mundo contemporáneo, en el arte contemporáneo, es que su improviso, perdonad un poco, pero su literatura es una especie de monumento funerario. Es decir, se ha destacado muchas veces que los detectives salvajes habla de la poesía, todo el rato habla de poetas, pero nunca aparece la poesía. La literatura de Bolaño todo el rato habla de la vanguardia, pero no es una literatura vanguardista. Habla de la revolución, pero no hay política ni hay revolución. Es decir, que en la literatura sería un poco el vaciado de todo aquello en lo que la tradición romántica, es decir, la tradición de la modernidad, que impulsó la tradición de la modernidad. Es decir, uh-huh. el mito de la vida absoluta, de la revolución, del exotismo. Es decir, la literatura sería de algún modo aquello que quedó empapado con esa pasión. Uh-huh. Pero de algún modo eso ya no la tiene. Es decir, la propia literatura de Bolaño es una literatura nostálgica y yo diría en cierto sentido funeraria. Está llena de escritores perdidos, de escritores buscados. O sea, los grandes escritores sobre los que Bolaño escribe, tanto Cesárea Tinarejo como Archimboldi, son escritores que han desaparecido y los estamos buscando. Hay una búsqueda del escritor mismo. Es decir, la propia literatura de Bolaño escenifica la ausencia de la literatura. La ausencia de la utopía, de la ausencia de aquello que fue el hilo rojo de la literatura. Y digamos que si toda su literatura es una especie de gran construcción en torno a un agujero, en torno a una fosa. Así podría leerse. Yo creo que eso es clave, es una interpretación muy personal, pero muy importante para entender por qué ha conectado tanto Bolaño con este estadio de nuestra modernidad.
Je crois aussi que c'est très important, donc on va laisser le soin à notre traductrice de traduire.
Je tenais à préciser la valeur littéraire symbolique de Bolaño dans le monde contemporain. J'improvise. Par exemple, dans Les Détectives Sauvages, on parle de poésie, mais les poètes ne sont pas là. On parle de l'avant-garde, mais il n'y a pas d'avant-garde. On parle de la révolution, il n'y a pas de révolution. Il s'agit d'une tradition de la modernité, la littérature en tant que mythe de la révolution, de la vie absolue. C'est presque une littérature nostalgique, presque funéraire. C'est un petit peu la recherche de l'écrivain, car les grands écrivains, les grands écrivains disparus n'apparaissent pas du tout, on ne les retrouve pas alors qu'ils les citent. Donc cette recherche de l'écrivain, une espèce de mise en scène de cette recherche de ce fil rouge. Sa littérature serait comme une grande construction autour d'une fosse. Il s'agit bien sûr là d'une interprétation personnelle, car je voulais connecter avec cet effet Bolaño.
Alors, je crois en effet que il y a effectivement un côté recherche de l'absence, et ce qui a disparu, c'est la littérature. Mais quand même, au-delà d'aspects un peu vernaculaires, mais je crois que l'une des raisons du succès assez unanime dans le monde aujourd'hui, je dis bien dans le monde, par exemple, Roberto Bolaño est un des auteurs les plus lus dans les universités américaines, je parle d'Amérique du Nord, est considéré comme l'auteur majeur, ou un des deux ou trois auteurs majeurs de ce temps. C'est peut-être aussi une question qui, nous, en France, nous touche, bien sûr, de primauté, de rappel de la primauté du romanesque. Bolaño écrit des romans, il n'a pas honte d'en écrire. Il aime tellement en écrire qu'il en écrit parfois 3, 4, 5, 10 dans le même livre. Que c'est un merveilleux, il faut le dire, même si ça peut paraître un peu réactionnaire, c'est un merveilleux conteur, à tel point que ses histoires agissent en métastase, un peu comme ça, pas dans tous les livres, hein, mais je songe au dernier Bolaño aussi, j'ose dire, enfin au Bolaño de la fin. Et il me semble que cette espèce de façon de ne nourrir aucun complexe par rapport à une supposée modernité qui serait en affrontement avec le roman est une des clés du succès de Bolaño. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, enfin en tout cas pour vous. Robert, peut-être, ou Ignacio?
Oui. Enfin, moi, je peux essayer de dire quelque chose à propos même de quelque chose comme le texte des Détectives Sauvages. Bon, c'est un roman, certes, mais c'est aussi quelque chose qui ressemble à une épopée. Voilà. Oui. Il il faut aussi que ce soit souligné. Alors, mais il me semble que si on prend les Détectives Sauvages, c'est un roman qui essaie de résoudre un problème qui est assez important pour le moment dans la littérature latino-américaine, mais beaucoup moins dans la littérature française, c'est l'opposition qu'il y a entre la forme dévorante du roman et la nouvelle. Oui. Il essaie de résoudre ce problème-là, et il le résout de cette manière-là. C'est pourquoi on a pu dire à un certain moment que si Borges avait été un peu plus audacieux, il avait été un romancier, il aurait pu écrire ou essayer d'écrire quelque chose comme les Détectives Sauvages. Alors, c'est vrai que aussi, quand Bolaño écrit, il fait feu de tout bois. C'est un grand narrateur. Sa narration est une prolifération incessante de récits, hein, qui se nourrissent, qui s'arrêtent, qui reprennent dans d'autres livres, dont il y a des échos qu'on aperçoit à des œuvres de distance. Hein. Donc, c'est vrai que c'est sans doute aussi ça, cette espèce de retour du roman qui a attiré des lecteurs, des jeunes lecteurs, mais aussi le fait que sa matière soit aussi une matière entièrement contemporaine. C'est-à-dire qu'il s'attaque aussi bien, hein, il peut faire un récit d'une œuvre de Tarkovsky au cinéma, comme aussi d'une œuvre de série Z des zombies. Il n'y a pas dans l'œuvre de Bolaño quelque chose qui serait méprisable à traiter du point de vue de la narration. Tout peut être raconté.
Si je peux même vous interrompre, il est en cela très proche de quelqu'un qui était très proche de lui, qui est le grand romancier argentin Rodrigo Fresán, qui est publié chez différents éditeurs en France. Mais à la différence de Fresán, il maintient son récit dans un cadre romanesque assez strict. Là où chez Fresán, ça explose comme une supernova. Donc il ne s'agit pas de dire que l'un est mieux ou moins bien que l'autre, la question n'est pas là. Mais il me semble qu'il y a chez lui la volonté de respecter le « il était une fois » initial qui fonde le roman. Quoi, voilà. Ignacio. Ou Dardo, comme... Enfin, qui veut.
Je crois que Bolaño est très conscient d'un phénomène qui est celui qu'à vrai dire, le roman contemporain, disons le roman post-choisien, c'est un héritier de la poésie en prose, et pas un héritier du roman du 19e siècle. C'est-à-dire que c'est le roman de Bolaño, au moins ce que j'aime le plus, ce sont des... parce que, à nouveau, on est en train de chercher l'identité de Bolaño, mais peut-être qu'il y a plusieurs Bolaño, n'est-ce pas? Ce sont les romans qui sont écrits comme des constructions poétiques. Mm-hmm. Il me semble que c'est une des réussites les plus extraordinaires de la littérature de Bolaño. Et c'est quelqu'un, justement, Ignacio parlait de Rimbaud. Je crois qu'il y avait une contradiction chez Bolaño entre une vision de l'écrivain romantique, Rimbaud et l'autre monde. Il disait toujours, bon, il pétait toujours Rimbaud, l'autre monde, comme le nec plus ultra du poète, disons, bon, romantique ou dionysiaque, il aimait dire aussi. Mais de l'autre côté, il était très apollinien, c'est-à-dire que dans sa vision de la littérature, justement, il disait, par exemple, Baudelaire, ce n'est pas Rimbaud, ce n'est pas l'autre monde. Baudelaire, c'est quelqu'un qui était très conscient de ce qu'il faisait. Il connaissait très bien les langages, il connaissait très bien la poésie. Et bien sûr, il était un lecteur d'Edgar Allan Poe. Et c'est pas par hasard que quand, dans le texte qu'il y a sur un des textes qu'il y a sur Borges, dans le livre entre parenthèses, il va visiter la tombe de Borges, et dans le cimetière il y a plein de corbeaux. Hein? Bien sûr, c'est une allusion au corbeau d'Edgar Allan Poe. Et je crois que une des choses que Bolaño a pris de cette tradition d'Edgar Allan Poe, Baudelaire et Borges, que Borges aussi revendiquait, c'est cette idée de l'écrivain vraiment artisan qui travaille son texte, qui n'est pas l'écrivain spontané de style Rimbaud ou l'autre monde, hein, qui pitonise en quelque sorte. Et il y a toujours cette contradiction, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté une sorte de nostalgie de cette figure de l'écrivain romantique, et de l'autre côté, un travail très avant-gardiste des collages, des montages, mais très conscient de ce qu'il est en train de faire, n'est-ce pas?
Añadiría que la formación de Bolaño es la formación de un poeta. Bolaño fue primero poeta y siempre poeta además. De hecho, él hace decir Archimboldi en 2666, creo que hace decir la frase de que la mejor poesía del siglo XX se ha escrito en novela. Pero digamos que hay una especie como de reflexión sobre la impotencia de la poesía, un poco en el sentido de lo que he dicho antes, es decir, la poesía, la pureza de la poesía y la intensidad de la poesía ya no es de este mundo, y se refugia en la novela. La novela, Bolaño practica la novela, y practica ese género mixto entre novela y nouvelle y relato, hay una transición de la poesía a la novela en todas las etapas, es decir, Bolaño evoluciona en la línea de Nicanor Parra como un poeta coloquialista y prosaísta, un poeta en prosa, y poco a poco, o sea, evoluciona hasta la novela. Pero el camino es desde la poesía. Ya.
Je tiens également à ajouter que Bolaño a une formation de poète. Il a été d'abord poète et il a toujours été poète. D'ailleurs, il fait dire au personnage Archimboldi dans 2666 que la meilleure poésie a été écrite en roman, en prose.
Du siècle XX ?
Du XXe siècle, le XXe siècle. La poésie et donc cette pureté, cette intensité sont disparues, mais ont trouvé leur refuge dans le roman. Tout son chemin, c'est une transition depuis la poésie vers le roman. Tout son chemin a été l'évolution du poète vers la prose.
Donc je dirais qu'il pratique la novela comme un genre claudicante. C'est-à-dire... Escribe novela porque ya no se puede escribir poesía. Es interesante saber que una novela que creo que se ha publicado aquí, la ha traducido Robert, Anvers, es un libro de poesía. Es decir, creo que aquí en Francia todavía no se ha publicado La Universidad Desconocida, que es un libro que recoge la práctica totalidad de la poesía de Roberto Bolaño, que él preparó, y donde está metido como un libro más de poesía exactamente el texto de Anvers, lo cual habla... De la transición ya dentro de su poesía del verso a la prosa y de la prosa a la novela. Pero ese camino es un camino, digamos, como de desarraigo del poeta que tiene el mismo signo que antes he señalado de toda su poética. Es decir, en la novela, o sea, no hay una apuesta por el género a priori. No es un narrador, digamos, que llega tarde a la narración, aunque tiene, por supuesto, la categoría y el pulso de un narrador de raza, pero que llega tarde y llega desde el abandono de la poesía. Yo diría que es un narrador con siempre la culpa, que arrastra la culpa de no ser poeta. Y buena parte de los libros de poesía de Bolaño, esto lo decían no sé quién hace poco, no recuerdo, no es idea mía, pero es verdad que muchos de ellos están organizados como los libros de poesía. Tanto los cuentos como las novelas son piezas. Es decir, esta cosa tan especial que hace Roberto Bolaño con la estructura narrativa, en realidad es una especie de herencia de lo que es la organización de un libro de poemas. Hay una especie de clave secreta que es poética. Y yo trasladaría lo mismo al estilo y a la concepción de lo literario de sus novelas.
Bolaño pratique donc le roman comme un genre boiteux, car actuellement, de nos jours, ce n'est plus possible d'écrire de la poésie. Il écrit donc de la prose. D'ailleurs, un ouvrage qui n'a peut-être pas été publié encore en France, il s'agit de La Universidad Desconocida, dans lequel se trouvera l'ouvrage En vers, qui correspond justement à c'est un livre de poésie, et qui parle donc de cette transition, qui marque cette transition de la poésie vers le roman, puis vers la prose. C'est donc un...
Non, pardon, je vous coupe, c'est juste pour dire, parce que en même temps que, entre parenthèses, de Roberto Bolaño, les éditions Christian Bourgois rééditent dans leur jolie collection titres Anvers de Roberto Bolaño également. Voilà, ça vient de sortir.
C'est donc un narrateur qui arrive sur le tard à la prose, même si il fait partie de cette catégorie-là, mais il traîne pourtant avec lui cette culpabilité de ne pas être un poète. Quelqu'un a dit, je ne sais plus qui, je ne me souviens plus, ça ne vient pas de moi, qu'il organise tous ses ouvrages comme des livres de poésie. Cela correspond à une structure poétique dont on pourrait trouver, dans lequel on pourrait retrouver la clé de l'organisation des livres poétiques. C'est donc cette conception des livres de poésie qu'il a dans sa littérature.
Alors, suivant l'expression requise, le temps qui nous est imparti, patati patata, je voudrais quand même qu'on dise deux mots de l'extraordinaire, on a parlé de sa postérité littéraire, mais de l'extraordinaire productivité posthume, si j'ose dire, de Roberto Bolaño. Donc, nous n'avons pas d'équivalent en France, si quand même Irène Némirovski, qui n'a jamais autant écrit que depuis 4 ans. Mais là, on est face à quelque chose de tout à fait différent. Donc, il y a eu, en comptant le monumental, à tout point de vue, 2666, il y a eu 1, 2, 3, en comptant entre parenthèses, et bientôt 4, j'imagine, 4 livres parus en Espagne.
Posthume,
oui.
13. Et après 2666,
si.
Además de 2666,
sí.
El secreto del mal.
El tercer Reich,
así.
Secreto del mal.
Ça fait 4, non? Et celui qui...
Los sin sabores.
Los sin sabores.
Ça fait 4, 5?
4.
4. Bon, mais ça va, je ne me suis pas trompé. Et en France, c'est à peu près ça, même un peu plus, puisqu'on a republié des choses qui n'avaient jamais été publiées, notamment un roman coécrit avec Antonio Porta, qui a été très judicieusement publié l'an dernier, je pense, il y a 18 mois, quelque chose comme ça. Et vient de sortir, donc ça fait partie de ces quatre, vient de sortir en Espagne, je pense que c'est chez Anagrama, encore un roman, enfin il est présenté comme tel, inédit, qui est sorti là, début janvier, et qui a fait l'événement. Alors, qu'est-ce que ça signifie? J'ai dit, parce que c'est vrai, il suffit de le lire, que c'était pas des fonds de tiroir, mais est-ce que effectivement, à la fin de sa vie, comme on l'a vu par exemple dans le critique de cinéma et bien au-delà, Serge Danet en France, qui se sachant condamné à la fin de sa vie est devenu une espèce d'homme livre, d'homme discours, est-ce qu'il en va de même pour Roberto Bolaño, qui à la fin de sa vie a essayé de d'empiler les phrases, les livres. En plus, ce n'est pas des petits livres, 2666, c'est 1000 pages. Hein, mais, Donc, très concrètement, très factuellement, je sais que vous n'y êtes pas pour rien, Ignacio Echavarria, comment ça s'organise, tout ça?
Bueno, Roberto Bolaño, quand commence à publier, lleva varios años escribiendo narrativa. Es decir, que hay un efecto de acumulación que justifica esta especie de gran productividad. Además, era un escritor extraordinariamente fértil, solo escribía. Era un escritor que solo escribía, vivía aislado y solo escribía. Y además escribía siempre en muchos planos a la vez. No escribía un solo libro. Escribía, digamos, con muchas ventanas abiertas. Motivo por el cual dejó muchas vías insinuadas, pero no cerradas.
Il faut savoir que Roberto Bolaño a commencé à publier alors qu'il avait déjà écrit de nombreux ouvrages. Il y a donc un effet d'accumulation, car il a commencé à écrire avant. C'est aussi parce que c'est un écrivain fertile qui ne faisait qu'écrire. Il écrivait d'ailleurs sur plusieurs plans en même temps, plusieurs livres. En même temps, il se laissait toujours plusieurs fenêtres ouvertes, ce qui explique le fait qu'il ait laissé autant de voies ouvertes.
Ce qu'il faut peut-être préciser, vous me direz si je me trompe, c'est que à la fin de sa vie, son succès lui a permis de ne plus faire qu'écrire, parce que ses conditions de vie avant, grosso modo les détectives sauvages, l'obligeaient à prendre des petits boulots, qui peut-être nuisaient à sa productivité. Non.
Elle, quand il arrive à Espagne,
si.
Elle travaille sobre todo con su madre, vendiendo, bueno, cositas de hippies, artesanías, de abalorios. Y también trabaja como guardia en un parking, es decir, hace varios trabajos. Pero a partir de finales de los 80, cuando él se casa con Carolina López y tiene un hijo, se dedica exclusivamente a escribir. Gracias también a que, al sueldo de su mujer.
Sí.
Y es cuando, cuando él empieza a escribir relatos, que una de las causas por las que se pasa a escribir prosa es porque piensa que es más productivo. Y entonces empieza a enviar esos cuentos a todos los concursos. De hecho, durante un cierto tiempo vive, como él contó en el cuento Sensini, de llamadas telefónicas, con pequeños beneficios que obtiene con los premios que gana, presentados en España. No sé si existe un equivalente en Francia, creo que no. En España hay centenares, por no hablar de miles, de premios literarios que conceden todo tipo de institución. Y con ese pequeño circuito, él se hizo, pero se dedicó exclusivamente a escribir los últimos 15 años de su vida, prácticamente. Es mucho, ¿eh? Si piensas que además escribía de noche, fundamentalmente, y compulsivamente.
Alors non, pas du tout. En fait, c'est à son arrivée en Espagne.
Il y a des trucs que je préfère qu'on traduise pas, mais.
Lors de son arrivée en Espagne, effectivement, il travaillait avec sa mère. Il vendait de l'artisanat sur des stands. Il a aussi été gardien dans un parking. Et c'est à partir de la fin des années 80, lors de son mariage avec Carolina López, avec qui il a eu un enfant, grâce au salaire, effectivement, de sa femme, qu'il a pu commencer à écrire. Mais c'est là, d'ailleurs, qu'il s'est rendu compte que c'était plus productif d'écrire des romans. Et il a commencé donc à envoyer à tous les concours en Espagne. Et donc, c'est grâce aux petits bénéfices qu'il tirait de tous ces prix. Car ici en France, je ne sais pas si cela existe, mais en Espagne, il y a des centaines, voire des milliers de prix littéraires qui sont décernés par différentes institutions.
Et donc, non, je vous rassure, c'est pareil ici.
Et donc, dans les 15 dernières années de sa vie, ce qui est beaucoup, il a pu s'occuper uniquement de l'écriture. Il écrivait la nuit et de manière assez compulsive.
Pero diciendo esto, da la sensación de que era un escritor, digamos, compulsivo y desaliñado, y yo estoy contigo en que es un escritor que tiene un aspecto apolíneo muy importante. Entonces, ahí se conjugan dos cosas. Por un lado, la abundancia de su escritura, y por otro lado, el que, como él dijo en una entrevista, la estructura de su obra, la estructura de la obra de Bolaño, está programada. Es decir, él tuvo una visión muy temprana de lo que quería escribir. Toda su obra narrativa responde a un plan muy deliberado. Esto se nota digamos, en las confluencias, en esta capacidad de encajar que tienen sus distintos libros. Y entonces todo lo que queda, todo lo que saldrá publicado por Bolaño, más allá de la poesía, todo lo que queda por publicar de Bolaño, son caminos que él comenzó, pero no son obras guardadas en un cajón. La única, es decir, el Bolaño que nosotros conocemos ya, el Bolaño que hemos leído, es el Bolaño, digamos, entero. Lo que quedan son pequeños caminos, pequeñas ventanas que él abrió. Y en eso hay mucho, porque repito que es una tarea de muchos años acumulada y de un escritor que escribía en muchos niveles a la vez. Pero excepto en algún caso, como El Tercer Reich, que es una novela que él escribió y de la que quedó descontento, es una novela primoriza, que él, digamos, no autorizó, lo que se va publicando, por ejemplo, el último que se ha publicado, o los textos del Secreto del Mal, son, digamos, el resultado de un escritor como, pongo el ejemplo de Kafka, ¿no? Un escritor que escribía y escribía mucho y tenía una imaginación muy fértil y que, por lo tanto, puede haber dejado decenas de proyectos narrativos en distinto estado de elaboración. Pero ninguno de ellos es una obra perdida. O sea, son obras, digamos, son obras de apuntes, de los cuadernos de cualquier escritor, como los esbozos de un pintor. Uh-huh. Pueden ser infinitos.
Donc, en fait, toutes ces publications sont des chemins qu'il a entamés. Ce ne sont pas des œuvres de fond de tiroir, car... car il ne s'agit pas, je ne veux pas qu'on imagine qu'il s'agit d'un écrivain compulsif, c'est juste qu'il écrivait énormément, la structure de son œuvre de toute façon était déjà planifiée, programmée, il s'agit d'un plan délibéré, tous les morceaux s'encastrent parfaitement. Le Bologne que nous avons connu, donc c'était le Bologne entier, mais il a quand même laissé quelques fenêtres ouvertes, des petits travaux qui se sont accumulés, comme par exemple la publication de Secret du Mal. Il s'agit de quelque chose, d'un résultat général, pour citer comme Kafka, c'est un écrivain qui avait beaucoup d'imagination, qui avait des dizaines de projets entamés. Ce ne sont donc pas des œuvres perdues, ça correspondrait à des esquisses, les esquisses qu'on retrouverait d'un peintre.
Bien, donc il y aura d'autres rendez-vous, j'imagine, et je me retourne vers son éditrice, Dominique Bourgois. Il y aura encore d'autres rendez-vous avec des inédits de Roberto Bolaño. Peut-être serez-vous amené à traduire le roman qui vient d'être publié en Espagne chez Anagrama, du moins. Vous pouvez compter sur vos lecteurs fidèles pour vous y inciter fortement. Ce qui est bien avec Bolaño, c'est que voilà, c'est aussi, y compris dans la lecture de Bolaño est toujours, pardon pour l'anglicisme, un work in progress. On peut le prendre par, enfin c'est assez fascinant. Et je vous conseille vraiment, vraiment. Alors c'est amusant parce qu'il y a eu plein d'auteurs français qui viennent de publier ou qui vont publier dans les jours qui viennent des livres autour de leur bibliothèque, je n'ai pas dit de leur nombril, de leur lecture, de leur... voilà. Et certains sont formidables, d'autres sont moins intéressants, d'autres sont plus attendus et d'autres sont carrément sans intérêt aucun. Et puis il y a celui-là qui arrive et vous voyez que les lectures, c'est toujours beaucoup plus que les lectures, donc je ne saurais trop vous recommander la lecture d'entre parenthèses de Roberto Bolaño, qui vient de paraître aux éditions Christian Bourgois. Je ne me tairai pas avant d'avoir rappelé que si nous sommes ici réunis, c'est aussi à l'initiative de l'Institut Cervantes, qui prouve que l'Espagne, c'est beaucoup plus que l'Espagne, et qui, maintenant encore, n'est-ce pas, abrite dans ses locaux une très très belle exposition de photographie. On a beaucoup parlé de Bolaño chilien, mais c'est plus le Bolaño, mais enfin c'est pas plus, c'est nettement plus le Bolaño mexicain. Et c'est dans la continuité de cette exposition que nous étions réunis ici ce soir. Merci infiniment à vous trois d'avoir accepté de nous rejoindre. Bon, Robert Amutio est bordelais, donc c'était moins difficile, mais c'est jamais facile. Et puis merci infiniment à vous, mademoiselle, de vous être acquittée aussi brillamment de cette tâche que je sais difficile. Voilà, merci mesdames et messieurs, bonne soirée.